Le roi du Hamel nous a rejoint.
Oui.
Vous parliez de l'Angleterre. L'Angleterre, c'est bonjour, la retraite à 66 ans, hein, il me semble.
Oui, mais encore une fois, il faut regarder l'âge réel
de départ,
pas l'âge officiel, parce que repousser l'âge officiel, ça aboutit dans la plupart des pays européens à ce que les gens prennent leur retraite plus tôt, mais avec une décote. Et c'est ça le risque.
Revenons sur les 35 minutes du président de la République tout à l'heure, qu'on a pu suivre en direct sur BFM TV. Est-ce qu'il a réussi l'exercice, Alain Duhamel?
Écoutez, la première question, c'était est-ce que c'était nécessaire? Et ma réponse, c'est oui, c'était nécessaire, parce qu'il y avait eu la motion de censure, parce qu'il y avait demain les manifestations, parce qu'il ne s'était pas exprimé depuis longtemps, et qu'il fallait donner le sentiment, en tout cas, qu'il se rendait compte de l'importance de ce qui se passait. La deuxième question, c'est est-ce que c'est utile? Alors, je dirais qu'il y a déjà une chose qui est utile, c'est que c'est la première fois que quelqu'un de la majorité, à quelque niveau que ce soit, explique de façon compréhensible pourquoi ils ont voulu faire cette retraite. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, mais au moins on comprenait pourquoi ils le faisaient. Ça, c'est une grande différence. Bon, ensuite, il s'adressait à cette heure-là à son électorat qu'il essayait, des personnes âgées, conservatrices, etc., qu'il essayait de reconquérir alors même qu'elles ont été choquées par l'histoire des réformes. Bon, et puis la troisième chose, c'est que ça permet d'esquisser de façon d'ailleurs très imprécise. Mais enfin bon, il fallait le faire. Ce que pourrait être la suite, comment il pouvait imaginer de gouverner en ayant une majorité de plus en plus rétrécie. Bon, et puis la dernière question, c'est est-ce que c'est efficace? Bah, la réponse, c'est évident que ça ne va rien changer en ce qui concerne les manifestations, la contestation et les blocages. Et même probablement, est-ce que ça a rajouté un peu d'huile sur le feu pour demain? Il suffit de voir la controverse avec Laurent Berger, par exemple.
Bien sûr. Alors, vous avez tout à fait raison sur les questions qu'il faut se poser.
Et tort sur les réponses.
Non, pas du tout. Non. Je pense qu'en effet, que cette intervention était attendue, était nécessaire, et qu'en revanche, on peut être beaucoup plus sévère sur la pratique de l'exercice. Pour une raison simple, c'est que quand on regarde les différents éléments qui devaient transparaître, en effet, Emmanuel Macron s'adressait à son électorat. Il en a même fait beaucoup, beaucoup pour cet électorat, puisque la musique qui reste de cette intervention, c'est avant tout « il y a le chaos, je suis l'ordre ». Ce qui est quand même un programme assez restreint. Parce que pour le reste, il n'a fait qu'annoncer des choses qui existent déjà, qui sont déjà lancées. C'est-à-dire que ce qui transparaît dans cette prise de parole du président, c'est qu'il n'y a rigoureusement rien de nouveau, qu'il navigue à vue. Dernier point, c'est que sur les questions de réponses concrètes aux demandes des Français, c'est-à-dire la question de ce qu'on fait démocratiquement pour sortir de cette crise face à un 49-3, face à un gouvernement qui a frôlé la motion de censure, bah là, c'est d'un flou absolu. Donc on comprend que Madame Elisabeth Borne doit élargir la majorité et qu'en gros, elle a un mois pour ça. Ça veut dire quoi exactement? On peut regretter d'ailleurs que les journalistes n'aient pas posé la question, mais concrètement, est-ce que ça veut dire qu'elle va former un nouveau gouvernement avec des LR? Est-ce que se passe-t-il si elle n'y arrive pas, etc. Enfin, c'est tout ça qui
m'intéresse. Est-ce qu'il a repris le contrôle de la situation? Parce que c'est ça aussi, beaucoup de Français, Français se disent, c'est quand même le chaos dans plusieurs villes soir, il y a la grève, il n'y a plus de carburant dans certains endroits, il y a les poubelles, est-ce qu'on reprend le contrôle de la situation?
Alors, en ce qui concerne le fonctionnement des institutions, il n'y a pas de problème de contrôle ou pas de contrôle, chacun est dans son rôle, et les institutions fonctionnent, on les aime, on ne les aime pas, on pourrait sûrement les améliorer, mais chacun est dans son rôle. Maintenant, en ce qui concerne le contrôle de la situation politique, non. Il n'en a pas du tout les moyens. La question, c'est est-ce que le Conseil constitutionnel va donner son accord ou pas son accord?
C'est pas quand?
D'ici trois semaines.
C'est ça, je pense.
Donc en attendant,
une grosse dizaine de jours.
En attendant, il laisse passer l'orage. En espérant que l'orage ne se transforme pas en tempête.
Et pour le reste, il espère, je ne dis pas il y arrivera, j'en sais rien d'ailleurs, et lui non plus, mais il espère reconquérir l'image du symbole de l'ordre à un moment où on entre dans une phase, inévitablement, qui va être une phase de radicalisation, où il y aura bien sûr des grandes manifestations bien tenues par les syndicats, avec leurs services d'ordre, discutant avec la police, mais où il y aura aussi forcément, comme toujours dans ces cas-là, des petits groupes qui ne seront pas du tout contrôlés.
Mais ça dure depuis un moment maintenant.
Deux choses
sentiment de désordre dans le pays.
Mais ça va continuer.
Deux choses. D'abord, vous dites les institutions fonctionnent. Le rôle de bonnes institutions, c'est de permettre de dénouer les conflits, les crises et les désaccords entre les différentes parties du corps politique. On voit bien que les institutions de la Ve République, telles qu'elles ont été transformées au fur et à mesure, n'y parviennent plus. Est-ce que c'est uniquement, d'ailleurs, les institutions ou est-ce que c'est la pratique non démocratique du président de la République et d'ailleurs de beaucoup de politiques, c'est une question importante. Mais de fait, ça ne fonctionne pas puisqu'on ne trouve pas de réponse politique aux problèmes qui sont ceux des Français. Alors, deuxième point, la question de savoir si Emmanuel Macron va réussir à apaiser les choses ou en tout cas à gagner du temps me semble là aussi extrêmement problématique. En se présentant comme l'incarnation de l'ordre face au chaos, il déroule un boulevard aux éléments les plus radicaux. En gros, il nous montre, et c'est ce que je retiens de cette intervention, qu'il joue à fond la radicalisation pour pouvoir parler des factieux qui vont faire peur aux braves gens qui n'ont pas envie de la révolution. Et comme ça, il va s'en sortir. Ça veut dire qu'au lieu d'apporter une réponse véritable aux questions que lui posent les citoyens, pourquoi cette réforme? Y avait-il d'autres solutions? Pourquoi aller contre la volonté des citoyens? Il explique que, en gros, il y a des factieux dangereux et qu'il incarne même pas la République, mais en effet uniquement l'ordre.
Alors, en ce qui concerne le fonctionnement des institutions, je crois que quand il y a un mouvement social comme celui qui se produit, qui est puissant, qui correspond en plus à un sujet bien précis, qui concerne tout le monde, Ça n'est pas la décision politique qui va régler les questions, c'est le rapport de force qui s'établira sur la durée, quand je dis sur la durée, c'est dans 3 semaines ou 1 mois, entre ceux qui refusent la réforme et ceux qui ne veulent pas la retirer. Mais je pense que ça viendra de ce qui se passera, non pas à l'Élysée, mais en dehors de l'Élysée. Non pas à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais dans les rues, de façon, j'espère, le plus pacifique possible, et inévitablement aussi de façon moins pacifique. Alors, ça, c'est votre autre question, ou votre autre réponse, d'ailleurs. Il joue l'ordre, comme tous les présidents jouent l'ordre quand il y a quelque chose qui se passe comme ça. Alors, il y en a qui jouent plus habilement que d'autres, incontestablement, mais ils jouent tous l'ordre, là. Bon, si j'ose dire, enlevé le haut de forme traditionnel des présidents de la République pour mettre un casque. Et je pense que ça va durer 1 mois.
Oui, à ceci près que quand vous dites que ça se joue dans un rapport de force, ça, c'est quand vous avez un mouvement social qui incarne, j'allais dire, une catégorie de la population qui défend ses intérêts. Et là, en effet, le rapport de force se joue entre un mouvement social et les représentants des institutions et de la nation. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas pareil. Là, nous avons un mouvement social qui est porté par 70% de la population, avec une Assemblée nationale qui, visiblement, aurait penché, même si c'est de très peu, pour le refus de cette réforme, parce que sinon on ne serait pas arrivé au 49-3. Donc on n'est pas dans la situation où ça doit se jouer dans un rapport de force entre la rue et le gouvernement. On est dans une situation, si on est en démocratie, où on écoute la volonté du peuple et on repropose un nouveau pacte. C'est ça qu'Emmanuel Macron ne fait pas.
Si c'est reproposer autre chose, vous savez très bien, puisqu'on se l'est dit 10 fois, que moi j'aurais préféré une autre solution que celle-là. Donc,
nous sommes d'accord, c'est un de nos points d'accord. Bon, la réforme Macron était quand même plus juste. Et
ça n'était pas encore au point, justement, mais c'était beaucoup plus démocratique, beaucoup plus efficace et beaucoup plus acceptable par tout le monde. Donc, je ne suis pas du tout l'apologiste de ce qui est en train de se passer. Mais je crois que la réponse sera, en fait, sur la capacité de résistance du mouvement social. Capacité de résistance qui se mesurera au nombre de manifestants ou de bloqueurs, qui se mesurera aussi à la violence plus ou moins marginale ou plus ou moins intense, généralisé, je ne crois pas beaucoup, mais enfin, on ne sait jamais ce qui se passe dans ces cas-là. Il peut très bien, à Marseille, avoir un affrontement très brutal entre la CGT des ports et docks et les gendarmes, par exemple, et que ça se passe horriblement mal. Tout ça, c'est imaginable, et j'espère bien qu'on n'y arrivera pas.
Mais c'est
pas
un peu mal, ça.
Mais non, mais ça, non seulement on ne s'en réjouirait pas, mais ce serait un échec démocratique français.
Mais c'est pas un peu malsain d'envisager depuis plusieurs jours maintenant, de part et d'autre, la mort d'un manifestant en disant que c'est peut-être
mais
ça qui pourrait faire tout basculer. Rappelons toujours
Malik
Oussekine, mais c'est malsain de rappeler ça.
Entendu.
En fait, on a pas l'impression que certains le souhaiteraient même, puisque c'est ça qui pourrait faire basculer les choses.
Je crois pas que certains le. Non, je crois pas que certains le souhaitent, franchement, d'aucun côté. Mais je pense. Ce que je pense, c'est que chaque côté essaye de faire comprendre que si par malheur ça se produisait, ça serait de la faute de l'autre. Alors ça,
d'accord.
Oui.
Mais vous conviendrez que ça signifie donc que sur une décision qui engage la vie des citoyens, qui est liée à la vision qu'on peut avoir des équilibres budgétaires, donc du système économique, vous êtes bien d'accord que ça, c'est consternant que la résolution soit, puisse être, comme vous le dites, d'attendre si le mouvement social va se maintenir ou pas.
C'est
il faudrait une réponse politique. C'est-à-dire que c'est à l'ensemble. Ce sont les institutions qui doivent permettre de régler ça.
Si vous voulez me faire dire que si les choses se passaient comme dans un pays habitué à la négociation, au compromis, à un minimum de consensus, etc., qu'il y ait eu un projet qui soit vraiment discuté, pas un projet d'ailleurs, deux ou trois ou quatre projets qu'on aurait comparés, évalués, on aurait négocié, ça aurait été très long, mais après tout, on n'est pas honnêtement à 6 mois près, donc tout ça, oui, mais la France est un pays foncièrement divisé et foncièrement rebelle, mais ça pas depuis la 5e République.
Non, c'est surtout
rebelle, Natacha, rebelle au compromis.
Le problème, c'est que nous avons des élites politiques et technocratiques.
Seulement des élites.
Non, je dis pas que c'est de la faute. D'abord, ça, qu'est-ce qui est de la faute ? C'est pas ça ce que je dis. Je dis que nous avons des élites politiques et technocratiques qui considèrent qu'elles sont là pour faire le bonheur du peuple malgré lui.
Non.
Et ce qui était frappant également dans l'attitude d'Emmanuel Macron pendant son interview, c'est qu'il y avait cette idée que il savait ce qu'il fallait faire, que ça l'amusait pas, bien sûr, mais qu'il fallait l'imposer parce que les gens ne comprennent pas et que les gens ne savent pas. Dans la quintessence de cette technocratie qui est en train d'abîmer le pacte démocratique.
Justement, parce qu'il a, justement, dans le droit fil de ce que dit Natacha Polony, quand il dit « je sais, je suis impopulaire, je le sais, mais je vais continuer d'avancer »,
j'assume.
À quoi joue-t-il en fait, Emmanuel Macron ?
Là, il ne joue pas du tout. Il est persuadé que c'est la réforme aujourd'hui et dans les conditions actuelles, puisqu'il en voulait une autre et dans d'autres conditions. Mais aujourd'hui et dans les conditions actuelles, il pense que c'est ça qu'il faut faire. Et comme il est le président, il dit « puisque je pense que c'est ça qu'il faut faire, on le fait ». Sauf s'il y a une motion de censure qui passe, que le gouvernement...
Mais il va la garder jusqu'à la fin de son quinquennat. C'est comme ça qu'on l'entendait aussi.
Non, il va pas garder. Non.
Présider, c'est aussi parfois être impopulaire.
C'est pour ça que je n'ai pas répondu à ça. Bon, d'abord, l'idée selon laquelle les élites françaises, plus que les autres, considèrent qu'elles détiennent la science et que c'est à elles de savoir ce qui est bon pour le peuple ou pas, heureusement, ça ne se passe pas comme ça, parce que les gens jugent les élites à chaque élection et que selon qu'ils sont contents ou pas contents, ils donnent un bon point ou un mauvais point. Ils renvoient ou ils donnent un avertissement ou ils donnent quitus.
Ça fait 30 ans qu'ils votent pour les uns pour les autres et qu'ils constatent que la politique mise en œuvre n'est pas celle qu'ils veulent et qu'ils se détournent petit à petit des urnes. Il y a une raison.
La politique de la France
est faite par des fonctionnaires de Bercy qui sont pétris d'une idéologie délirante.
Excusez-moi, mais non, mais je sais bien.
Qui connaît les rouages de l'État ?
Écoutez, ce thème-là, c'était par exemple, moi je ne vais pas rester longtemps là-dessus, mais pendant l'entre-deux-guerres, c'était un des grands thèmes de discussion. Est-ce que c'est une technocratie, etc., qui dirige
Natacha Hanin, on reproche souvent à nos dirigeants de ne pas faire de réformes courageuses parce qu'ils ont envie d'être réélus et donc rester populaires. Là, je ne sais pas si c'est une bonne réforme, mais là, pour le coup, il assume une réforme qui est impopulaire. Est-ce qu'on ne peut pas saluer un certain courage ?
Non, c'est-à-dire que...
Ah bon ?
Ben non, parce
qu'en fait, deux cas, ils sont
c'est
perdants.
C'est pas ça. Il y a une habitude maintenant qui est de dire que les réformes impopulaires relèvent du courage. Mais tout dépend si cette réforme s'inscrit dans une vision qui est cohérente et qui, elle, est validée par le peuple. Et dans ces cas-là, au sein de cette vision cohérente, vous pouvez avoir des choses qui sont moins populaires que d'autres. Le problème, c'est de considérer qu'on doit gouverner contre les citoyens parce qu'ils ne savent pas. Or, c'est ça qui se joue depuis des décennies. Et c'est pour ça que vous avez des instruments de contournement de la démocratie par différents biais, que ce soit des instances supranationales, que ce soit donc cette fameuse idée que les marchés nous dictent notre politique. Tout ça, c'est une façon de dire, en fait, petit à petit, il y a des pans entiers du réel qui ne relèvent plus de la décision des citoyens. Et c'est ça qui détourne les Français de la politique.
Non, je ne crois pas que ce soit ça le facteur. Je ne dis pas que ce n'est pas un facteur qui existe, mais je ne crois pas que ce soit le facteur déterminant. Je crois que la raison pour laquelle les Français se détournent de la politique, c'est parce qu'il se trouve que depuis 30 ans, il y a eu des alternances régulière et que aucune ne peut dire j'ai réussi.
Mais
et donc ils se disent que les alternances qui sont faites par des gens différents avec des idéologies différentes, des méthodes différentes et des types d'autorité différentes n'ont pas atteint les résultats qu'ils souhaitaient.
C'est tellement différent. Alors, ils sont tous rassemblés autour d'Emmanuel Macron en 2017.
Les élites, il y en a d'abord des élites, il y en a dans tous les partis.
Plus ou moins,
elles sont quand même plus du côté de Macron que de Mélenchon, Marine Le Pen.
C'était de rassembler les partis du gouvernement.
Et Mélenchon et Marine Le Pen ont aussi, dans ce qu'on appelle des élites, des soutiens.
On les compte sur les doigts de la main.
Mélenchon, il a des soutiens universitaires de haut niveau. Marine Le Pen, elle, je suis d'accord, avant, il n'y avait pas du tout de technocrates.
Les élites financières et économiques sont du côté d'Emmanuel Macron.
Maintenant, ils commencent... Ouais. Oui, non, mais c'est vrai que le centre de gouvernement a toujours plus attiré... Disons, ceux qui ont le maximum de qualifications, etc. Ça, c'est vrai. Mais alors ça, pour le coup, c'est éternel.